Mercredi 8 décembre, Sciences Po et Terra Femina ont présenté le premier volet de l'Observatoire Femmes et Villes du transport à la mobilité, questions de femmes. Pour retrouver tous les résultats de l'enquête et en savoir plus sur l'Observatoire Femmes et Villes, rendez-vous sur le www.terrafemina.com. Une enquête et des tables rondes en partenariat avec, en l'occurrence, la RATP, JCDECO, Nexity et PSA Peugeot Citroën.
Elles n'ont pas les deux pieds dans le même sabot. La preuve, ce colloque d'une série prometteuse organisée par Terra Femina au sujet en l'occurrence de la mobilité urbaine, question de femmes, question et femmes au pluriel. Un colloque maintenu le jour où le ciel enneigé est proprement tombé sur la capitale, le tout dans les locaux de Sciences Po Paris, dont la directrice adjointe, Nadia Maric, est une femme. Strictement rien de fortuit à tout cela. Sciences Po à ce jour ne loue pas ses salles. Quand il s'y passe quelque chose, c'est que l'école est partie prenante. Sciences Po n'est pas l'Olympia, Nadia Maric.
Nous n'avons pas du tout question ni à louer ni à prêter nos salles, bien évidemment. Nous sommes une université. Si nous organisons un événement à Sciences Po, c'est parce qu'il a un sens sur nos activités fondamentales que sont la recherche et l'enseignement. Et très précisément, ce colloque sur la mobilité urbaine rencontre deux intérêts fondamentaux à Sciences Po. Le premier, c'est toutes les questions liées à ce qu'on appelle les gender studies, donc les études sur le genre, qui sont très fortement développées à Sciences Po et qui sont un des éléments clés de la formation fondamentale que l'on offre à tous nos élèves. Et puis, le deuxième point est évidemment l'évolution des villes. On a un master sur les stratégies urbaines, sujet très très important à un moment où le monde se globalise de surcroît, ce qui n'est pas rien non plus. C'est la manière dont Terra Femina et Véronique Morali s'occupent de ce genre de questions. C'est toujours extrêmement concret, avec des exemples précis, avec la volonté de formuler des propositions, et le tout en partenariat non seulement avec des entreprises, ce qu'on appelle les parties prenantes, donc des entreprises, des collectivités publiques, mais aussi les personnes, c'est-à-dire en l'occurrence les femmes, dont on traite de la vie quotidienne finalement par ce genre de sujet.
Deux tables rondes, la première sur les enjeux de la mobilité des femmes urbaines, l'évidence, alors qu'un être sur deux au monde habite en ville, la mobilité est synonyme de conditions féminines. Et là non plus, la parité n'est pas de mise. Exemple très concret avec le permis de conduire, Pascal Feillard, secrétaire général de l'Institut pour la ville en mouvement et responsable de la prospective automobile client marché de PSA Peugeot Citroën.
Ça, c'est quelque chose qui est sans être récent, qui est quand même assez marquant. C'est que dans toutes les sociétés développées, on constate qu'il n'y a pas parité dans l'obtention du permis de conduire. On a à peu près en France 95% d'une catégorie d'âge d'hommes qui passe et qui obtient son permis de conduire, alors qu'on est un peu moins autour de 90% pour les femmes. Alors certes, ça a augmenté ces 20-30 dernières années, mais la question qui aujourd'hui reste sans réponse, c'est pourquoi on a une différence, une non-parité dans l'obtention des permis de conduire pour les classes d'âge les plus jeunes, celles entre 20 et 35 ans.
3000 internautes ont déjà répondu au questionnaire en ligne de Terra Femina sur la mobilité féminine. 20% de ces réponses ont du reste été faites par des hommes. Ce n'est pas si mal. Question de temps, ils passent un tout petit peu plus de temps dans les transports que les femmes. Elles en passent un peu moins d'une heure, un tiers à pied, un tiers en voiture. En revanche, les femmes restent très peu fanas du vélo, alors qu'on a pensé à elles. Patrick Jouin, designer du Vélib.
On a essayé de penser à tout le monde. Donc évidemment, les hommes, les femmes, les enfants, les touristes. Là, que ce soit vraiment quelque chose qui englobe toute la population. Mais évidemment, les femmes, on souhaitait vraiment à ce que les femmes puissent avoir accès au vélo, que le système ne leur fasse pas peur, qu'elles aient envie, comme tout le monde, d'utiliser le système, parce qu'il est vraiment destiné à tout le monde. Donc on a fait attention dans le travail des formes, dans le travail des couleurs, à ce que cet objet ne soit pas marqué ni homme ni femme. On va dire, voilà, qu'il soit androgyne. Donc ça, c'était un élément important, ce côté androgyne. Je ne veux pas que les choses soient marquées. Je veux que ça soit suffisamment bien fait pour qu'intuitivement, on se dise, voilà, cet objet est pour moi.
Le métro, c'est pratique. Il s'adapte pourtant un peu plus lentement que la voiture à la clientèle et pour cause. Françoise Combel, déléguée générale au développement durable à la RATP.
La durée de vie d'un train est longue, beaucoup plus longue que celle de la voiture, qui va durer 12, 15, 20 ans. Un train de la RATP, ça dure 40 ans, 45 ans. La vitesse de renouvellement et la capacité d'adaptation est bien entendu un peu plus lente.
Pas facile, par exemple, quand on a un sac à dos avec son ordinateur dedans, de s'asseoir quand il y a une place. Or, 20% de la clientèle a aujourd'hui son sac à dos.
C'est vrai. Il faut que nos espaces dans lesquels évoluent et vivent nos voyageurs pendant une part non négligeable de leur vie, parce que ça peut être une heure, ça peut être deux heures, il faut que ces espaces s'adaptent à l'évolution qui, elle, peut être assez rapide de notre clientèle.
En Bretagne, pas de métro, mais là aussi des femmes à la recherche d'un emploi. Thérèse Thierry, maire de Lanester et vice-présidente de l'agglomération du Pays de Lorient.
Quand on vient de trouver un emploi et qu'on est en situation précaire, c'est-à-dire sans voiture ou avec des horaires de travail qui ne permettent pas de prendre le bus, c'est une réalité fréquente sur les boulots partiels, je pense.
Un bus parfois toutes les heures seulement.
Voilà, et puis le bus qui ne commence pas nécessairement à 5h le matin et qui ne vous ramène pas chez vous à 23h. Hein, c'est aussi ça, le bus en Bretagne, les transports collectifs en Bretagne, c'est pas les mêmes horaires qu'en région parisienne. Donc il faut trouver des solutions.
Pour ne pas avoir éventuellement à refuser un emploi.
Voilà. Et la solution, c'est la mise à disposition de mobylettes qui est assurée par le CCAS de la commune dans laquelle je suis maire. Et ces mobylettes, on a eu l'occasion de créer un atelier mécanique avec des jeunes des quartiers qui ont récupéré des vieilles mobylettes, qui les ont retapées et qui, ces mobylettes, elles-mêmes, servent maintenant pour ces personnes qui soit sont demandeurs d'emploi, soit viennent d'obtenir un emploi.
Le cas de Jacqueline Lortiwa, socio-économiste, est plus qu'emblématique.
J'ai une greffe totale de la colonne vertébrale, ce qui est une première chirurgicale en France. Je suis la seule dans ce cas-là. Il y a 200 heures de travail sur mon dos, 1 kg de métal, 42 vis de 10 cm, 3 tiges de plaques.
Pour Jacqueline Lortiwa et bien d'autres, le meilleur moyen de transport est encore celui que l'on ne prend pas.
Je ne vois pas pourquoi on ferait moins d'efforts pour les humains que pour les déchets. Les déchets, on essaye de les réduire à la source. Les dépenses d'énergie, on essaye de les réduire à la source. Et je ne vois pas pourquoi les humains, on ne réduirait pas leur transport.
Elle se bat aujourd'hui pour les entreprises de territoire.
On peut très bien imaginer des entreprises de territoire, c'est-à-dire des lieux de télétravail où on est relié avec son entreprise sur son territoire de proximité. Et justement, ça serait des entreprises de territoire et ça ne serait plus des entreprises d'activité. Et ça permettrait à la fois de quitter son domicile et en même temps de ne pas courir comme toutes les banlieusardes j'ai calculé quand même que dans l'est de Val-d'Oise où je suis, en moyenne on perd 7 années complètes de temps dans les transports.
Mobilité urbaine et autonomie, le lien avec la condition féminine est direct. Travail, promotion sociale, droit à la santé. La mobilité n'est pas seulement un moyen mécanique pour se rendre d'un point à un autre. C'est une véritable stratégie développée au quotidien par un être humain sur deux. Pascal Feillard.
Alors la mobilité, c'est en fait les moyens qu'on met en œuvre pour gérer à la fois son habitat et les activités professionnelles et les activités personnelles que l'on peut avoir. Et donc en fait la mobilité, c'est l'accès à l'emploi, l'accès à l'éducation, c'est l'accès à la santé, c'est l'accès à la culture. Et donc aujourd'hui, c'est un droit essentiel à exister dans nos vives, dans nos villes et dans nos sociétés urbaines.
Pour se rendre à Sciences Po, comment fait-on ? Nadia Marie, qui est directrice adjointe.
Je me déplace à pied puisque j'ai une chance incroyable, c'est depuis très longtemps d'habiter pas très très loin de mon lieu de travail, puisqu'il me faut un quart d'heure à pied pour venir travailler à Sciences Po, ce qui est une chance fabuleuse, parce que vivre à Saint-Germain-des-Prés, c'est une chance fabuleuse. Et j'essaie de me déplacer le plus souvent possible à pied.